Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, dans la traversée du règne humain, la synthèse de la personnalité. Ensuite, vous avez la synthèse de l'âme et ensuite, vous avez la synthèse de l'esprit. Et derrière tout ça, vous aurez la vie. Quand l'être quitte le règne humain et passe donc à la sixième initiation, eh bien, il s'aventure sur les chemins d'évolution de la vie pour elle-même. Alors, ne soyez pas à douter de votre réalisation actuelle, au sens où elle n'est pas que de cette vie. On n'entre pas dans le cinquième règne en une seule vie, et par conséquent, le fait de retrouver la compréhension claire du livre de la connaissance, du livre de la sagesse et du livre de la vie est une référence d'un stade certain de réalisation. Même si vous avez eu une première période de vie où vous avez eu à vivre très humainement cette première période. Il y a un mot important, c'est de faire comme si vous avez votre humilité qui va vous dire « Mais attends, je ne mérite pas, je ne suis pas... » Et en fait, faites comme si. Et ensuite, osez. Sur le chemin de la maîtrise, faites comme si. Et pour ceux plus avancés, osez. Quelle est la chose la plus précieuse que l'être doit emmener en partant? C'est de se dire, puis-je retrouver le plus vite possible dans ma vie future tout ce fil conducteur? Et comme il n'y a pas de hasard, si vous tenez bon, eh bien, vous aurez ce rendez-vous tôt dans votre vie future. Dans le parcours de fusion, qui est 70 vies, c'est la réalisation, l'intégration de l'énergie d'amour-sagesse. Dans les 7 vies, c'est l'intégration de la volonté divine. Dans l'entrée dans la hiérarchie des âmes, ce que le disciple a appréhendé, c'est le plan divin. Dans le chemin de la dualité, ce qu'il a appréhendé, c'est la compréhension du dessein divin. Quelle est la nuance entre dessein et plan? Le dessein recouvre l'intention de celui qui a créé cette planète et qui répond à une intention plus vaste, celle du logos solaire, et une intention encore plus vaste, celle du logos cosmique. Et toutes ces intentions découlent de l'intention de celui qui donne la vie aux 7 univers. Et si vous appréhendez le tableau qui a été donné en son temps, cette grande vie est désignée comme étant un para-brahman. Et derrière cette dimension de vie cosmique, vous avez l'absolu, appelé en termes orientaux Sat, S-A-T. Le dessin, pour ce qui concerne notre logos planétaire et sa représentation, l'homme céleste, Sanat Kumara, son dessin en voie d'émergence et de réalisation est le plan. Le plan est le stade de réalisation de ce dessin. Actuellement, ce que l'humanité appréhende du plan, ou du moins l'humanité avancée, c'est le retour de son grand instructeur, le chef des guides, bien sûr des guides, qui pour certains s'appelle Maitreya, pour d'autres l'imam Mahadi, pour d'autres l'aigle blanc, pour d'autres le Christ. Les Indiens. Mais en fait c'est la même entité, dont le nom personnel est effectivement Maitreya, qui veut dire le bienveillant. Qui est-il ? Il est le premier de cette humanité à être sorti du règne humain. Il fut Krishna et bien entendu, il est attendu comme pour d'autres part en tant que Krishna. Le plan actuellement, c'est ce retour des guides et l'aspiration à la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, désignant bien évidemment le cinquième règne. Si vous prenez les 3 centres de la structure énergétique planétaire, vous avez le centre de la tête, la maison du Père, Sambhala, vous avez le centre du cœur, la hiérarchie des âmes, et vous avez l'humanité, centre de la gorge. En vous rappelant que l'humanité est en retard parce qu'elle devrait être au centre Ajna, et que le centre de la gorge devrait être occupé par le règne animal. Encore une fois, l'humanité bloque l'équilibre normal des choses. Il faut comprendre que toute structure, nous la retrouvons selon l'unité basique qui est l'être humain. Donc son centre de la tête au niveau planétaire, c'est Shambhala, l'appellation orientale de la maison du Père pour les occidentaux. Le cinquième règne, la hiérarchie des âmes. Donc le centre de la tête, sixième, septième règne, hein, pour le désigner en tant que règne. Le cinquième règne, la hiérarchie des âmes, l'humanité, quatrième règne. Quand on développera plus particulièrement ces centres, on s'apercevra que les êtres avancés du quatrième règne font partie de la glande pinéale de la structure.
La hiérarchie des âmes, donc c'est le centre frontal ?
Non, du cœur, puisque en fait c'est par la hiérarchie des âmes que passe l'énergie d'amour-sagesse. Et la hiérarchie Shambhala, c'est la volonté. Comprenez bien que tant qu'un être n'use que de l'intelligence, il relève du quatrième règne et par conséquent du centre de la gorge. Je ferai quand même une parenthèse pour vous dire que les Juifs, pour parler d'eux, sont encore dans le plexus solaire planétaire. Il n'y a pas de discrimination, hein, surtout pas, hein, simplement... Parce qu'ils sont encore complètement en séparativité, en personnalité, et surtout accrochés par le matérialisme. Donc ils tirent vers le bas. Alors, je reprends. D'une façon générale, quand un être n'est encore en usage que d'intelligence, il est dans le centre de la gorge planétaire. Quand il commence à pratiquer de justes relations, et qu'il use de l'intelligence du cœur, qu'il a montré qu'il n'était plus dépendant de ses appétits physiques, de ses pulsions et passions émotionnelles, il rentre dans le centre du cœur. Il est intégré dans la hiérarchie des âmes, âmes qu'il est en réalité. Quand un être ayant intégré l'intelligence, l'amour-sagesse, use, appréhende l'intention du Père, donc sa volonté, qu'il va appréhender par paliers successifs, il est intégré dans la maison du Père. Cela commence à la troisième initiation et il est membre à part entière à la cinquième. Ce qui veut dire que sur la Terre, cet être manifestera ses expressions qualitatives. Pour lui, ça devient ses piliers de vie. Ce qui vous permet les uns les autres, eh bien, d'avoir des repères. Il est bien évident que si l'on est honnête avec soi-même, on découvre qu'au-delà de l'amour-sagesse, il y a une autre dimension à la vie. Mais cette découverte est aussi une invitation. Qu'est-ce qui est demandé pour approcher cela? Eh bien, cela en majuscule, bien évidemment, c'est l'innocuité, c'est-à-dire ne jamais nuire à autrui, ni en parole, ni en... pensée ni en acte, ne jamais juger. Juger est de l'acide mental. Il y a un principe simple, en chacun de nous, il y a la vie, avec ses règles, et notamment la loi de karma, qui est incontournable. Et par conséquent, on n'a pas à se soucier de résoudre ces différends avec l'autre, puisque de toute façon, il porte en lui le juste rééquilibrage des erreurs éventuelles. Non, que lui aurait pu, que chacun peut faire. Reprenons des choses simples. Nous avons notre racine de vie, la monade, dans l'absolu. Les lois de la vie sont nos lois, incontournables. Et donc, la loi liée à l'individualité de conscience au mental est la loi de karma. Il y a un karma humain, karma de famille, karma de race, karma de peuple. Il y a un karma planétaire, il y a un karma solaire, il y a un karma cosmique. Dès l'instant où il y a conscience, il y a le balancier karmique. Le karma vient de ce que l'entité en question est en progression de l'imperfection relative de où elle en est par rapport à l'horizon qu'elle doit atteindre. Et le karma va fonctionner non pas en punition, mais en incitation à trouver les opportunités d'équilibre. Ce qui veut dire que, en fait, le karma n'est pas du tout ce que l'on emporte. Un seigneur de karma, retenez bien, est une grande vie qui s'est qualifiée en maîtrise d'amour et de sagesse. Un seigneur de karma est obligatoirement qualifié en matière d'amour-sagesse. Alors, ne soyons pas là à dire « il m'a agressé, il m'a percuté, je règle mes comptes ». Non, nous devons nous dire « eh bien, cette aventure est un exercice pour devenir meilleur ». Et que s'il se présente comme un ennemi, eh bien, c'est parce que j'ai encore à appréhender l'équilibre dans ce domaine. Ce qui veut dire « ne nous occupons pas de demander réparation, c'est déjà écrit chez l'autre, au même titre que chez nous ». Par contre, si nous sommes amour-sagesse, tendons l'autre joue, c'est-à-dire aidons l'autre à progresser pour ce qui nous apparaît à l'analyse et pas à la critique, encore non équilibré. Je voudrais faire une parenthèse entre l'analyse et la critique. Si nous comprenons que notre pensée, c'est de l'énergie, que le fait que nous pensions à quelqu'un, c'est projeter télépathiquement ce que nous pensons. Si l'analyse donne lumière sur des sujets que l'autre a du mal à appréhender, c'est un acte d'amour. Parce qu'en fait, dans notre réalité, nous sommes télépathes. Dans le processus de dualité, quand l'être a atteint un certain niveau de maîtrise, il est relié au Père, c'est-à-dire que dans le corps énergétique de l'être humain et dans ses corps subtils, les trois centres de la tête, du cœur et de la gorge sont reliés en triangle. Vous avez l'éveil du troisième œil, vous savez, entre les deux yeux, l'œil de Shiva pour l'Orient, et cet œil est la fenêtre de la monade. La monade, c'est l'aspect père, ce qui veut dire que celui qui nous donne la vie, par notre racine de vie, par ce point d'énergie de lumière dans la tête généré par la mise en activité des trois centres majeurs, eh bien, il voit sur le plan terrestre. Vous voyez la relation avec le tout planétaire. Au fur et à mesure que des êtres s'éveillent ainsi, eh bien, la vision du Père devient de plus en plus claire. À nous de veiller à ce moment-là à faire de notre personnalité unifiée à l'âme une belle maison, ce qui veut dire ne pas nous lâcher dans des non-soi agités, hein, des vies mineures de nos non-soi. Le Père est obligé de fermer la porte. La finalité, il faut la comprendre, c'est que entre le pôle esprit planétaire, le Père, le pôle mère, la mère planétaire, qui sont de même importance, eh bien le Fils doit devenir l'époux de la mère, et en cela devient le Père. Ce qui veut dire que entre les deux pôles, vous avez un échange d'énergie de l'aspect Père et d'énergie de l'aspect Mère, qui fournit l'essence. Et l'essence alimente le feu. Et ce feu, c'est le Fils flamboyant. Sur Terre, le Père et le Fils. Je vous ai évoqué l'aspect innocuité. La mise en garde sur ne pas juger cet acide corrosif de séparativité, le fait de toujours regarder l'unicité de la vie, en cela je vous renvoie aux 12 observances qui ont été en son temps développées. Si vous voulez, je reprends. Vous avez les 12 commandements, ceux de Moïse plus les deux qu'a donné Maitreya, à savoir aimez-vous les uns les autres et que la volonté du Père soit faite sur la terre. Vous voyez qu'il avait bien saisi à la fois d'appréhender cette nouvelle énergie d'amour-sagesse et aussi que derrière cela, il y avait l'attente que se réalise l'intention du Père. Vous avez donc eu pour la personnalité les 12 commandements. Pour l'être que nous sommes, c'est les 12 observances. Et ultérieurement, vous aurez les 21 aspects de l'élégance qui concernent la maison du Père et qui sont les principes qui régissent la collégialité de la table ronde du Père. Tout ça, c'est dans le futur, si vous tenez bon. Alors, ça veut dire que, sur la Terre, les êtres ont à manifester successivement, mais bien sûr à un moment donné concomitamment, les trois énergies majeures, à savoir volonté de bien, amour, sagesse, intelligence divine. Pour ce qui est de l'être présent sur Terre, au sein de l'humanité, appartenant à la hiérarchie des âmes, faisant partie de la maison du Père, il a à devenir l'expression de l'ensemble dans ses caractéristiques propres que l'on vient d'évoquer, mais aussi dans la synthèse humaine qui est le quatrième rayon cosmique d'harmonie. Je ne peux que vous inviter à faire la distinction permanente entre harmonie et conflit. Au fur et à mesure que l'être progresse sur le chemin de la dualité, il apprend à distinguer les caractéristiques des énergies. Et il devient un centre d'énergie, une fontaine d'énergie, et par le joyau, dans chacun des sept centres de son corps énergétique, s'écoule l'énergie de vie, père, chacun des centres étant relié plus particulièrement à un des sept règnes de la manifestation. Les centres planétaires, ça vous intéresse peut-être de pouvoir les distinguer. Le centre sacré concerne le règne des devas, des êtres énergie. Le centre basal, à la base de la colonne vertébrale, concerne le règne minéral. Le plexus solaire concerne le règne végétal. Le centre du cœur concerne le cinquième règne, la hiérarchie des âmes. Le centre de la gorge, je vais établir dans ce qui devrait être. Hein. Le centre de la gorge, le règne animal, futurs hommes. Le centre ajna, quatrième règne, règne humain. Le centre de la tête, sixième règne, et au-dessus de la tête, septième règne. Vous savez que le centre de la tête est double. Quand l'être est relié à sa racine de vie, à partir de la troisième initiation, les joyaux dans chaque centre sont actifs, et à ce moment-là, l'être irradie sur les règnes. Ça veut dire que quand un être est dans la dualité avec sa racine de vie et qu'il en prend conscience, sa pensée illumine le mental humain. C'est en cela que vous avez une compréhension supérieure de ce qui a été dit, les pensées mènent le monde. Essayons de comprendre que celui qui donne la vie à la planète a limité sa puissance à la réalisation de ses fils. Il attend que ses fils deviennent ce qu'il est pour travailler sur le corps dense planétaire. Effectivement, le mot-clé, c'est relais canal. Nous ne sommes jamais qu'un canal. Le Père-Mère est en nous, et voilà, soyons une belle maison pour qu'il puisse irradier. Là, vous comprenez l'influence de l'homme devenant divin. Il devient le messager des dieux. Il est Mercure. Et il apporte l'illumination au règne de la nature, minéral, végétal, animal, l'homme du quatrième règne. La finalité de la quatrième hiérarchie créatrice, le règne humain, c'est d'être le messager des règnes supérieurs pour les règnes de la nature. Plus vous allez surveiller pour arriver à un instinct, c'est-à-dire des réflexes liés aux 12 secondes, plus vous allez surveiller la nature des forces mauvaises ou des énergies que vous utilisez, plus vous devenez précieux pour le Père et plus il peut écouler sa puissance par votre canal qui n'est qu'une unité dans un vaste ensemble qu'on appelle le groupe.
Ce que j'appelle le groupe, là, c'est l'ensemble.
Le groupe, c'est l'unicité des âmes. En fait, le Père, cette vie cosmique, qui donne la vie à la planète, au schéma planétaire, c'est-à-dire à toute la manifestation, l'un a pulvérisé sa vie en des myriades de vies qui deviennent ses fils. Donne la vie. La vie est don. Ce qui veut dire que la quatrième hiérarchie créatrice dans sa réalité que nous sommes, c'est l'unité. ce n'est que la forme qui n'est jamais que des chantiers individuels où nous sommes, comme on dit, engagés à la perfection dessus. Quand tu as des pensées qui ne sont pas saines et claires, eh bien, c'est une population que tu as accueillie en son temps et qui occupe, comme on dit, la maison. Ou tes prisonniers et tu les nourris, c'est, ils me traitent de sale con, lui c'est un sale con. Donc en fait, tu t'emprisonnes, tu te fais piéger toi-même. Ou tu dis, ça va bien, hein, c'est pas ma réalité. D'où et dont, et il faut aider les autres à devenir meilleurs. Et c'est là où vous connaîtrez la véritable joie. Parce que vous avez affaire à un frère plus jeune et qui est prisonnier. Hein. Alors comprenons que dans la manifestation terrestre, eh bien, regardons dans le bon sens, des êtres choisissent de venir dans une famille et ils comptent sur les aides de cette famille qui peuvent présenter tel ou tel aspect que lui a appréhendé et ils comptent sur ces aides pour le moment venu pouvoir progresser et dépasser la faiblesse. En d'autres termes, s'il a appréhendé la colère, il va choisir une famille où il y a encore la colère pour que dans sa jeunesse, il s'aperçoive de la stupidité de la colère et sortant de là en positif, il dit « bon, bah, la colère est une faiblesse, je ne tombe pas dedans ». Vous avez là aussi un processus lié au quatrième rayon. Hein. On retrouve encore « par le conflit, j'atteins l'harmonie ». En fait, si vous voulez, le chantier considérable en tant que contrat de vie des vies que nous sommes, c'est d'unir les deux pôles opposés. Alors l'un fonctionne en harmonie, l'autre génère le conflit. Voilà. Et vous retrouvez ça avec les Gémeaux, hein, Castor et Pollux, avec Cara et Abel. Et puis, Alors dans l'ère du Verseau, comprenons bien que nous sommes en émergence de conscience des êtres, c'est-à-dire de groupe, hein, voilà qu'on emploie comme terme, si tu veux, ça désigne en fait l'opposé de l'individualité. Ce que l'être humain doit devenir dans cette ère du Verseau qui émerge, c'est d'être l'individu universel, en un seul mot. Voilà, il y a 2300 ans, pour que les êtres dans le tempo et avancés, eh bien, deviennent des individus universels. La durée de l'ère du Verseau. Quand nous avions l'ère du Bélier, c'était la conscience de masse, de troupeau. Il y avait peu d'individualité qui étaient souvent des dictateurs. Puis après, il y a eu l'ère des Poissons, et vous voyez qu'au bout des 2300 ans, eh bien, il y a beaucoup maintenant d'individualité, c'est-à-dire de personnes épanouies en personnalité. Et là, nous rentrons maintenant dans un nouveau cycle, où là, nous devons en fait montrer ce que nous sommes réellement dans notre soi, c'est-à-dire l'individu universel et par conséquent la conscience de groupe, l'unicité. Ne soyons donc pas étonnés que nous avons ce genre de rencontres, puisqu'en fait, elles sont, on ne peut plus, en concordance avec les temps actuels. Ça n'est pas une science qui appartient à quelqu'un, ça appartient à tous les êtres humains. Ce n'est pas la sagesse d'un être, c'est la sagesse de l'être. Alors à chaque fois, bah, vous aurez des décalages en positif et en négatif. À savoir qu'aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, des êtres appréhendent l'énergie de volonté divine et ils sont des précurseurs par rapport au cycle, à savoir que ce sont des êtres semences pour le prochain système solaire. Alors, ça devrait vous rassurer les uns des autres en disant, bah, dans le fond, si j'ai des repères de ce genre, je ne suis pas trop en décalage.
Une chose qui me surprend, c'est que ça fait deux fois que tu... Là, tu dis que ces gens émergents seront prêts pour le prochain système solaire. Tout à l'heure, tu as dit qu'en partant, en fait, on devait projeter le fait qu'on retrouvera le fil conducteur de nos vies dans la prochaine vie. Bon, et qu'est-ce qu'on fait là, ici? Il n'y a rien à espérer pour cette incarnation-là.
J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Au contraire, ce qu'il faut saisir, c'est qu'il m'est donné des perles qui m'appartiennent, mais il m'est donné des perles à moi d'en faire un usage précieux. C'est-à-dire, avant, je le faisais en instinct spirituel de comportement. Ça veut dire, en moi-même, mon instinct, c'était « je ne fais pas, de mal à autrui, n'est-ce pas? Et puis éventuellement, je fais à autrui ce que j'aimerais qu'il me fasse. Donc, quelle est la caractéristique? C'est que, en fait, il y a une qualification dans ce qu'on appelle l'intelligence du cœur et l'amour-sagesse. Mais à un moment donné, l'être que nous sommes pousse en avant en disant « faut aller plus en avant au service du Père ». Ben, ça veut dire que ce que je mets sur la table, eh bien, c'est pas simple, parce que ça engage les êtres en connaissance de cause. À savoir, si vous avez l'intime conviction que ça vous convient, que ça convient, il faut assumer. Vous êtes libre, chacun est totalement libre de faire comme il veut, mais s'il a la conviction que ça lui convient, par engagement de son être, il faut assumer. Il y a une différence entre celui qui ignore que sa parole, sa pensée, c'est de l'énergie, et par conséquent, il est protégé. Mais comme on sait que le mal, c'est un bien dépassé dans lequel on retombe, vous avez à l'extrême, vous avez malheureusement le sentier de la gauche, c'est-à-dire des frères noirs, qui ayant eu les règles du jeu, dérobent en disant « je veux pas, je refuse ». Ce n'est pas des menaces, hein, c'est simplement pour que vous compreniez que ce que le Père peut transmettre, si vous le ressentez comme ça, bien, c'est aussi un appel à servir sérieusement. Il ne faut pas vous profiler dans votre image d'apparence, bon sang. Au même titre que je vous ai dit, quand vous voyez un être avec une apparence, à supposer, imaginons quelqu'un, une jeune femme ou un être qui serait d'une belle présentation physique, il faut toujours vous dire, attends, qui est à bord là? Comprenons, être précieux pour le Père, c'est assumer ce qu'il attend de nous. Alors à partir de là, comme je vous l'ai évoqué, je vous ai dit tout à l'heure que des êtres étaient aujourd'hui à même d'appréhender la quatrième et la cinquième initiation dans une même vie. C'est-à-dire à la fois la quatrième, le renoncement, c'est-à-dire, et si on te retire tout, est-ce que tu tiens bon? C'est là où il y a le dérapage des êtres qui disent « oh ça ». Et puis, après, il y a la cinquième où on dit « eh bien, je suis un serviteur de la maison du Père et j'assume ». À partir de là, vous franchissez de... Une initiation, c'est une prise de conscience majeure. Alors, la chose qu'il faut intégrer, c'est que c'est pas parce que votre conscience se fond dans l'universalité que vous en perdez l'individualité. Tombez pas dans cette illusion. L'individualité de conscience est acquise à tout jamais. Mais votre conscience, elle se répand, si vous voulez, à la fois en omniprésence et en omniscience. Je répète, ce n'est pas la science au sens humain du terme, c'est la connaissance des réalités de la manifestation des vies en évolution. Quelles sont les règles du jeu, en majuscule? À partir de là, il faut les respecter, c'est tout. Et c'est à l'infini, parce que plus les vies s'avancent, plus l'absolu écarte les bras, à jamais inaccessible. Donc à chacun de nous à dire, dans ma dimension de compréhension de cette réalité, je veille à tenir bon et j'assume. Donc les premières choses, j'ai 12 secondes pour ne pas nourrir de pollution de vie mineure. Et puis après, n'effectuant plus de transmutation, je vais veiller à faire usage de ces énergies qui sont désignées qualitativement par le vrai, le beau, le bien d'ensemble, le pur. Et ainsi, vous écrivez votre futur en écrivant le futur de la Terre. La compréhension, c'est simple, non? L'application, il y a des ornières. Mais le schéma, si vous voulez, c'est que le patron, Maître Ya, il essaye de rassembler ses troupes au niveau de la planète. C'est pas une aventure, si vous voulez, poursuivre un instructeur, non, c'est pour que les êtres deviennent des fontaines de vie. Des êtres peuvent s'écarter, vous savez, depuis 25 ans, j'en ai vu qui venaient, qui partaient, tout ça. Mais je pense que la très grande majorité, à leur niveau, ont continué à assumer ce qu'ils avaient appréhendé. Ce qui serait regrettable, c'est de tourner le dos. Vous voyez bien que c'est quand même bien fait, puisqu'en fait, tout a été donné dans les livres de Bellet et de Blavatsky. Donc c'est pas ma science, hein, ça appartient à toute la hiérarchie des arts.
Je regardais parce que je pensais une bêtise. Alors.
Ce qu'il essaye de vous dire, c'est que comme il connaît les 21 aspects de l'élégance, et que parmi ces aspects de l'élégance, contrairement à ce que vous pourriez avoir comme idée du père, vous en avez qui s'appelle gaieté, humour, finesse d'esprit et jeunesse. Voilà. Donc il est en gaieté.
J'ai essayé d'expliquer les 12 secondes. Et je me dis qu'en fait, un 12 secondes, c'est à peu près un 100 mètres. Et il dit qu'en fait, si vous faites un 100 mètres, au bout du 100 mètres, j'ai l'impression que vous ne penserez plus du tout à ce que vous aviez à dire.
Là, c'est un 100 mètres spirituel qu'il faut faire.
C'est l'image.
Vous savez, c'est long, hein, 12 secondes. C'est long, hein. C'est là où, justement, vous voyez la puissance du silence. Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut d'abord s'observer en tant que réactivité. C'est pour ça, si vous voulez, que personnellement, je vous invite, quand vous êtes un peu en situation difficile, vous mettez symboliquement une table devant vous et vous posez sur la table. Vous ne réagissez pas à ce que vous dit l'autre, vous posez symboliquement sur la table. Et ça vous donne le temps soit de réagir humainement, soit de réagir en tant qu'être, soit de réagir en tant que père. En fait, si vous voulez, les 12 secondes, c'est la respiration de votre âme. La respiration énergétique de votre âme et 12 secondes. Bon, il faut savoir aussi que sur le plan énergétique, l'énergie que nous respirons, le prana, et que nous colorons justement de force ou d'énergie en fonction de ce que nous choisissons, cette énergie, elle fait 3 fois le tour de notre corps énergétique avant de sortir en aura. Alors pensez au logos solaire qui, lui, a comme respiration énergétique 11 ans. Père, c'est 24 heures, une journée. C'est pour vous montrer les écarts, hein, de dimension, hein, attention. Hein.
C'est quoi
la respiration énergétique du logos solaire. Laquelle énergie descend dans son corps physique qu'est le soleil, et vous avez ces expulsions d'énergie bouddhique sur la croûte solaire. La matière du soleil, c'est de l'énergie bouddhique. Hein. C'est de l'énergie du plan bouddhique. Donc ça n'a rien à voir avec la matière, matière physique. Voilà, ces 2 dossiers que l'on a appréhendés sont autant, je dirais, de repères, de points de départ, qui peuvent paraître hermétiques, et je pense que là, si vous veniez à les relire, vous apercevrez qu'il y a beaucoup moins de blanc qu'auparavant. Et puis après, vous verrez, vous allez surfer là-dessus, là.
Pour aller voir en université, il faut d'abord, si on est en, je sais pas moi, en CM2, il hein, faut bosser CM2, sinon on n'apprendra pas à lire, à écrire. Les fractions et tout,
absolument.
Ceux qui arrivent en sixième et qui ne connaissent pas leur table de multiplication. Voilà. On peut aller plus vite, hein, au départ de vacances.
Voilà. Sachez que les disciples du 5e règne sont classés en 3 familles. Vous avez d'abord les lièvres. Sabour, 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 n'est-ce pas? Et puis au bout d'un moment, ça c'est les jeunes disciples. Ensuite vous avez les crabes. Les crabes, c'est-à-dire qu'ils essayent de discerner, et bien sûr, ils se protègent, et par conséquent, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Du doute négatif au doute positif. Le doute, dans son aspect positif, signifie prudence. Ça n'est jamais qu'une autre façon de dire « n'acceptez que ce qui vous convient », fût-il le plus grand sage. C'est ce qu'a disait Siddhartha Gautama Bouddha à ses étudiants. N'acceptez que ce qui vous convient, même si c'est moi ou un plus grand sage qui vous l'ai dit. Vous comprenez, cette aventure dans l'invisible, en l'état, c'est la même chose que traverser un grand fleuve où vous n'auriez pas posé vos pierres. Vous risquez à un moment donné d'être au milieu du fleuve et puis de dire par où je m'en vais maintenant. Troisième, les étudiants, les disciples plus avancés sont des tortues. Ils ont trouvé le bon rythme et ils avancent sereinement.
Alors, c'est ce qu'il faudrait suivre.
Il faut tendre, faire comme si.
Comme si,
voilà. Essayons de comprendre, hein, pour reprendre ta réflexion, c'est que rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Et que si nous comprenons que nous sommes dans notre réalité, comme tout centre d'énergie, une fontaine de vie. Ce qui veut dire qu'en permanence, au quotidien, peu importe les grandes ou petites choses que nous faisons, nous sommes en permanence un centre de lumière et de vie. et que par conséquent, à nous de rester rayonnants. Je vous rappelle une fois de plus, le quatrième règne résonne, le cinquième règne rayonne. Et à partir de là, nous fonctionnons en permanence. Alors la finalité, c'est quoi? C'est d'atteindre ce que les orientaux appellent de samadhi, ce que nous pouvons nous appeler comme étant la béatitude. L'état de samadhi, l'état de béatitude, c'est quoi? C'est lorsque l'être regarde toute chose avec le double regard. Dans sa dualité devenue lune-soleil, il regarde bien sûr en tant qu'humain les événements qu'il observe, mais il ne perd jamais son regard spirituel ou divin, dont les repères relèvent du vrai, du beau, du bien, du pur. Ce qui veut dire qu'en fait, la priorité de son instinct devenu divin, c'est de tout regarder d'en haut vers le bas, et non plus du bas vers le haut. C'est ça l'état de béatitude. C'est pas mystique, c'est le fait qu'il est un observateur céleste. Il est sous impression du Père. Il sait qu'en lui, il y a le regard permanent du Père dès l'instant où il ne ferme pas la porte. Donc il est dans cet état de samadhi. Il n'échappe pas, ne tombe pas dans les réactivités de ses lunaires. C'est essentiellement des regards de compréhension. C'est dans la nature de la vie. Ce n'est pas une extrapolation mystique. C'est un état naturel. Et un des principes de l'initié, c'est la discrétion. Vous ne verrez jamais un véritable initié vous dire qu'il l'est. Et il ne fera jamais état de ses pouvoirs. Au même titre qu'un guide ne vous dira jamais qu'il est guide tant que le patron des guides n'est pas revenu. Mais, pardon. Oui, le Christ est remonté il y a 2000 ans quand même.
Alors doit-on comprendre que tous ceux, n'est-ce pas, qui prennent un théâtre, c'est charlatan.
J'irai pas jusque-là, c'est souvent des jeunes maîtres qui prennent encore les pieds dans le tapis. Et c'est un peu normal au début. Appelez-moi maître, c'est bien. Plus un être est avancé dans la réalité des choses, plus il, quand il regarde le ciel et qu'il regarde le sable, il se dit vraiment, je suis entre les deux. Et puis ça va à l'encontre, parce que la véritable humilité, dans son sens supérieur, si vous voulez, c'est le respect de l'échelle d'évolution des vies. Si on a ce respect de l'échelle d'évolution, quand tu regardes le Père, tu te dis, il doit encore nous voir vraiment comme des vies grossières. Parce qu'on a quand même mis de la substantifique moelle sur la table en chantier. Là.
Par exemple, tu nous donnes à lire un texte. Alors, moi, je ne suis pas une très bonne élève, je n'ai pas lu le texte pour des tas de raisons, et en particulier, la première raison, c'est que tu nous dis très souvent que tout est éclaté dans Bailey, Blavatsky, et que c'est fait certainement consciemment. C'est à peu près ce que j'ai retenu de tes...
Pas consciemment, volontairement.
Alors, moi, je ne comprends pas, parce que c'est très bien, je ne veux pas te passer la pommade, mais... Heureusement que nous avons ton éclairage, parce que sinon, enfin pour ma part, je suis toujours incapable de faire les textes comme ça. Je lis après avoir entendu tes explications.
Alors je répondrai qu'en son temps, Jewalkul, Moria, Kutumi et Maitreya, qui ont donné la première phase, à savoir Blavatsky et Bailey, je pense qu'ils avaient quand même idée qu'il y aurait des personnes pour instruire derrière. Parce qu'après l'avoir bien verrouillé, il faudrait quand même qu'il y ait des serruriers qui viennent dérouler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça s'inscrit dans la chose depuis longtemps attendue, c'est-à-dire le retour des guides. Ça fait 12 000 ans que l'humanité erre seule, aveugle. C'est pas une fin en soi. Si elle n'arrive pas à retrouver ses guides, elle est condamnée. Il faut inscrire ça dans l'histoire de l'humanité. Il faut comprendre qu'ailleurs, d'autres humanités se sont perdues.
Si j'ai bien compris, et si je suis un petit peu ma pensée, nous sommes incapables, dans l'état, enfin, pour ma part, et je suis incapable, et il y en a bien d'autres trous.
Oui, alors à ça, je vais te répondre que, effectivement, j'ai rencontré peu d'êtres, je peux les compter sur les doigts de la main, des deux mains, qui ont pu s'aventurer de leur propre initiative. Mais je pense qu'il ne faut pas lire ça comme ça. Il faut comprendre que le pourquoi de l'instruction. Les uns les autres, quand je dis ça, je parle d'une façon générale, les êtres du cinquième règne, ils ont leurs activités au quotidien et autres, et par conséquent, pour se consacrer à surfer d'embellé, on va dire qu'à raison d'une paire d'heures par jour, ça demanderait, pour être vraiment un surfeur, 21 ans. Bon, avec des capacités, on va dire, normales. Donc le but, c'est en fait de donner en clair les éléments des livres de la connaissance, de la sagesse et de la vie, et à raison d'une réunion mensuelle, en 7 ans, normalement, l'être est à même d'avoir toute la structure de la manifestation et bien évidemment ensuite d'aller se balader dans Bélé ou Blavatsky. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le montage a été fait de telle manière que les êtres s'y perdent, entre guillemets. Donc c'était intentionnel. Mais je pense que c'est surtout le fait que les êtres doivent faire la part des choses et ils ne peuvent pas se monopoliser, voilà. Ce qui veut dire, pour faire écho personnel, eh bien, vers l'âge de 35 ans, j'étais sur Bélé Blavatsky, et puis, 7 ans après, j'ai été prié de dire, eh bien, maintenant, il faut que tu reprennes tout ça pour pouvoir le transmettre en clair aux autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours libre. À nous de répondre intuitivement à quelque chose que l'on pressent pour un jour comprendre qu'il y avait un autre aspect à tout ça.
Non, il faut quand même dire aussi que, avant d'arriver, parce que c'est très technique, Bélé par exemple, il y a quand même eu quelques intermédiaires qui ont apporté les pierres au moulin. Comme je me souviens, j'avais commencé par la littérature théosophique et tout. Il y a des bouquins d'Annie Besant et tout ça qui sont très bien faits. Hein. Du genre, quand on lit La Sagesse Antique d'Annie Besant,
c'est pas mal. Il y a Powell aussi avec
ses mais Powell, quand on voit, non, je ne suis pas trop d'accord avec lui sur ce du système solaire.
Ah non, mais moi je parle de comment il a développé corps mental, corps astral. La particularité qui est évoquée là, c'est que, quelle est la particularité des livres de Bélé et de Blavatsky? C'est que les auteurs ne sont pas les auteurs. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et c'est toute la différence entre quelque chose qui a été donné d'en haut, avec quelque chose qui, par sa connaissance, son expérience, son érudition, fait état de... Mais c'est pas du tout pareil.
On va apprendre à avoir faim, parce que si on a faim,
mais l'appétit vient en lisant.
Exactement.
Oui, parce que c'est un pulse. Hein. Observez, regardez. Ça fait combien de temps qu'on travaille groupe ici?
Un an et demi.
Regardez quand même ce que vous avez pu rassembler comme éléments. Qui, bien évidemment, au début, c'était... Oui, bon, et puis là, vous apercevez que tout ça prend la dimension. Hein. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, entrer dans l'omniprésence, c'est-à-dire la conscience qu'il n'y a qu'une seule vie dans toute la manifestation, et puis l'omniscience, eh bien, c'est ce que vous êtes en train d'acquérir, ce qu'on appelle l'omniscience, c'est-à-dire la connaissance du monde des causes. Du monde qui génère la manifestation. Allez, vous avez déjà, je pense, les uns les autres compris que chacun d'entre nous est maître de son futur. Il se laisse aller au négatif, il ira dans des conditions en conséquence.
Ce matin, tu as parlé des attentes et de leur chute par rapport à l'homosexualité.
Entre autres, oui.
Et merci.
Nous sommes dans la quatrième race, la race Atlante, quatrième race. Lié au développement du corps astral. C'est quoi le corps astral? C'est une excroissance de la partie inférieure du mental. Le plan astral, dans la conception divine, n'existe pas. Ce qui veut dire que, en fait, dans la quatrième race, la partie inférieure, communément appelée Kamamanas, au niveau oriental, c'est-à-dire en fait le plan de sensibilité, devait, dans sa réalité théorique, devenir extrêmement affiné et sensible pour percevoir toutes les couleurs, toutes les nuances, mais ne devait pas devenir, en fait, une structure en soi. Hein, au même titre, je vous l'ai dit, qu'aujourd'hui, on a le phénomène opposé, c'est-à-dire l'hypermental, entre l'âme et le cœur mental concret. Bon, ça veut dire donc que le quatrième rayon lié à la quatrième race, hein, puisqu'il y a les concordances numériques, vient à développer chez la race Atlante tout un épanouissement des arts et du culte de la forme. Et vous avez eu ce phénomène, eh bien, de dérive, à savoir que l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée. Mais c'était l'émerveillement du corps, l'émerveillement des sens, l'émerveillement de l'émotionnel.
Mais l'homosexualité en tant que...
Mais il n'y a pas que cet aspect-là, hein.
Oui. L'homosexualité en tant que telle est considérée comme négative.
Ben, c'est une impasse. Je ne juge pas, je dis simplement que c'est une impasse. La vie, par définition, est don. L'homosexualité est une impasse. Mais c'est pas... Je pose sur la table, hein. Simplement, ça peut bloquer des êtres qui, par ailleurs, sont chemines. Tant qu'ils n'arriveront pas à dépasser ça, vous verrez qu'ils sont retenus. La finalité, c'est qu'ils vont connaître l'épreuve, et tant qu'ils n'arriveront pas à dépasser cela, eh bien, ils resteront dans l'épreuve. Avec le risque, après, de dérive, hein. Alors il faut savoir qu'indépendamment de ça, les Atlantes ont fait un usage erroné de l'énergie du minéral. Et ils ont utilisé la magie qu'ils avaient reçue pour dominer autrui. La magie noire est née avec l'époque Atlante. Ça a été la guerre dans les cieux entre la fraternité blanche et la fraternité noire. Mais ça remonte à 1 million d'années. Mais entre-temps, si vous voulez, des êtres ont été retirés, c'est-à-dire ne sont pas revenus, attendant des conditions. Ils sont revenus à l'époque grecque.
Oui, parce que justement, ce que tu évoques là, évoque, disons, beaucoup ce qui s'est passé dans la Grèce antique, c'était l'émerveillement du corps, etc.
Voilà. La décadence. La décadence.
Ça revient encore maintenant, alors.
Mais tant qu'ils n'auront pas retrouvé l'équilibre, il faut bien, la chose qu'il faut saisir dans cette étude, c'est que notre être intérieur, lui, doit unir les deux aspects. Et par conséquent, il doit assumer l'épousaille. Mais ça relève à un moment donné pour les hommes du fait que la femme était pécheresse. Mais on ne juge pas, c'est simplement, voilà. Il n'y a rien au-dessus de la réalité. Le problème fondamental, c'est que l'être est bloqué dans le sexe physique, et que par conséquent, il n'arrive pas à trouver l'alignement sexuel divin, donc l'union avec son être intérieur. Cela dit, il est possible de développer l'homosexualité parce qu'elle n'est pas que physique. L'homosexualité physique, à la limite, tant que ce n'est que physique, si vous voulez, c'est le moindre mal. Vous avez une homosexualité émotionnelle et une homosexualité mentale. Alors la pire, c'est la mentale parce que c'est d'entraîner les autres dans la chose. Et là, on est au bord de ce qu'on appelle la perversion. Les Atlantes étaient essentiellement émotionnels, astraliens.
Donc les homosexuels qui viennent maintenant, ou les êtres qui choisissent de vivre cette expérience, et vous dites que...
L'être à son champ de conscience sait que c'est une faiblesse à dépasser. Ce qui veut dire que dans ses choix d'incarnation, il va choisir le contexte pour appréhender cette faiblesse, donc il retombera dans un contexte provocateur, hein, on peut le dire comme ça, et il faudra qu'il montre qu'il va s'en détacher. Alors aujourd'hui, nous avons grand nombre d'Atlantes qui sont revenus, qui sont là. Mais la démarche, c'est pas de les juger. Une faiblesse est une faiblesse, c'est comme une maladie de l'âme, on n'a pas à dire celle-là elle est pire qu'un autre. Il y a simplement le fait que ça n'est pas conforme à la nature de la vie. Ils ne peuvent pas transmettre la vie. Essayez de comprendre quel est le blocage de ça. Mais par contre, aller dans le sens de développer cette faiblesse, là, c'est attention.
C'est pour ça qu'à l'époque grecque, il y avait beaucoup aussi d'homosexualité.
Oui, parce qu'ils sont revenus. Et c'est pour ça qu'à l'époque grecque, il y a eu ces splendeurs d'édifices, de statues et autres. Il fallait qu'ils expriment, si vous voulez. C'était... Voilà. Ah, c'était les arts. Oui, mais même, il y avait le. Il n'y a pas que ça, il y avait le bien-être physique, c'est-à-dire des conditions de vie luxueuses, de jouissance et tout. Mais le problème, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est que l'excès, vous dérivez, et ça devient. Dans la conception, on va dire, si vous voulez, du bien-être, c'est des conditions correctes de vie, c'est-à-dire du confort, une vie confortable. Mais quand ça tombe dans le luxe, vous comprenez bien que c'est accaparé sur l'ensemble.
In medias virtus.
On retombe à cette histoire de tarte, si vous voulez. Et c'est pas jugé, c'est simplement le fait que c'est le respect que nous sommes tous égaux en potentialité. Bon, après, la règle du mérite, j'entends. Celui qui veut rien foutre, pas normal qu'il ait la même chose que les autres. Bon, mais autrement, voilà. Je précise que ce que je vous exprime là sur le sujet, vous le trouvez dans Bélé, n'est-ce pas ? Je ne vous donne pas un avis personnel, même si il peut s'identifier à ce qui est dit dans Bélé.
Donc quel livre parle de l'homosexualité ?
Les problèmes de l'humanité.
Qu'est-ce que tu as posé comme question ?
Mais c'est éparpillé, il revient à plusieurs endroits sur le sujet. Vous savez quand ? À l'époque, il a été dit le peuple juif, le peuple élu. Pourquoi ? C'était appelé comme ça. Eh bien, simplement parce que les Juifs, à l'époque où ils sont venus, dans l'humanité, ils étaient beaucoup plus avancés que l'humanité terrestre, puisqu'ils avaient fait une humanité lunaire, mais ils avaient échoué. Donc c'était à eux, en tant que peuple, à s'élire pour montrer à l'humanité ce qui pouvait être l'humanité avancée. Ils avaient à s'élire, mais ils avaient leur propre faiblesse, à savoir la séparativité et le matérialisme.
Ils sont arrivés à un stade très évolué et qu'au moment où ils devaient lâcher la partie matérielle, ils n'ont pas su.
Vous connaissez la symbolique des trois juifs errants, enfin qui sont devenus errants ? Eh bien, quand est venu le temps de l'apocalypse pour la chaîne lunaire, mais là, il fallait arrêter les manœuvres, c'est le gosse solaire qui a arrêté la manœuvre, vous avez trois juifs qui représentent les trois courants juifs, qui se présentent, ils sont à taper à la maison du Père, et chacun amène ses cadeaux, son argent, ses troupeaux et tout ça, et la voix du portier dit « Laissez tout !» Ils ont retapé une nouvelle fois « Laissez tout !» Ils ont retapé une troisième fois « Laissez tout !» La porte ne s'est jamais ouverte. Non, ils ne voulaient pas abandonner. Ils ne voulaient pas abandonner. Alors, pour revenir à l'homosexualité, si vous voulez, c'est une déviance inférieure de l'hermaphrodisme, où l'être doit s'unir à un déva, puisque pour retrouver sa plénitude d'être, l'être doit fusionner avec une monade dévique. Donc c'est Hermès qui doit fusionner avec Vénus. Donc le travers, c'est d'avoir confondu cette dimension d'hermaphrodisme divin avec une sexualité.
L'homosexualité ne crée pas la vie. Qu'en est-il des avortements ? Ça la détruit là aussi. C'est à interpréter comment ?
Liberté de chacun. Je ne dérobe pas, je ne dérobe pas. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Dans toute situation humaine, la lecture peut être opposée. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Je prends un exemple simple. Le sage vous dira, ces deux êtres se retrouvent, ces deux anciens ennemis qui ont à dénouer quelques nœuds. Ils vont faire un bout de route ensemble et ils auront à se séparer, en espérant qu'ils auront harmonisé leurs erreurs passées. Donc, ce couple peut se séparer et, en tant qu'être, ils font bien. Ces deux êtres sont destinés à avancer ensemble comme ils le faisaient dans leur vie passée. Ils se séparent, vous voyez ? Donc les choix peuvent être ou dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est à eux à se juger. Il faut savoir que sur un plan technique, le couple procure un fœtus qui, pendant 21 jours, va être mis à disposition de venu d'être. Ce qui veut dire que pendant ce délai, il n'y a pas encore de présence d'être dedans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avorter ? C'est supprimer l'occasion de venu à un être.
Et au-delà des 21 jours ?
Au-delà des 21 jours, normalement, un être a pris possession, donc ça veut dire qu'il a introduit sa banque de données, son atome permanent physique, dans le centre cardiaque du fœtus. Et à partir de là, vous avez un être qui va dérouler sa manifestation. Alors, supprimer, tuer, vous ne tuez pas la vie. Vous interrompez un parcours de vie pour un être.
Qui était prévu de la sorte.
Alors, quand vous avez un avortement, je pense que la femme qui vit cela, ça a des conséquences importantes pour elle par la suite. Et c'est souvent accompagné justement de difficultés pour avoir autre enfant. Pour un être qui va prendre le fœtus et dont l'avortement est annoncé, lui fait un aller-retour. Ça veut dire que c'est souvent un être lourd qui dit, ben ouais, pour moi c'est déjà solder un peu de compte. Alors, on ne peut absolument pas juger, parce que d'abord, il n'y a pas que des cas généraux, il y a des cas extrêmement particuliers. Simplement, il faut savoir que c'est interrompre l'opportunité pour un être de se manifester.
C'est-à-dire qu'un être lourd a tendance à choisir un fœtus où il y a un risque que...
Non, pas une occasion, par exemple, regarde, autre cas de figure, mais là, normal. Tu as un couple qui, dans sa vie passée, a manqué à l'enfant. Le seigneur karmique qui gère leur parcours, en accord avec leurs deux êtres, a prévu une perte en bas âge de l'enfant. Bon, l'être qui va s'incarner, peut-être un être avec un passif conséquent, et qui dit, pour moi, c'est une solution déjà d'une partie du rachat. Et donc, il sait qu'en s'incarnant, à l'âge de quelques mois ou autre, pouf, pour une raison de maladie ou autre, il repart. L'épreuve n'est pas pour l'être, il est pour les parents.
C'est peut-être un acte d'amour de la part de
l'être. Oui, ça dépend des... Il n'y a que les êtres qui sont concernés. Il faut être éminemment prudent. Et surtout, ne pas juger. Ne pas être un donneur de leçons. Dans cet éclairage que tu donnes, tu vas avoir une jeune femme dont le parcours de cette vie était on ne peut plus bien mener et tout. Mais en tant qu'être, elle a la casserole d'un viol passé qu'elle a effectué. Elle est violentée. Vous voyez la différence, lecture humaine, oh là là, ça leur fera du bien, de toute façon, ils avaient trop de chance, trop de réussite. Alors que vu d'en haut, cet être, avant de venir, était encore un peu grise parce qu'elle avait ça, elle a eu l'épreuve qu'elle a choisie, elle l'a dépassée, elle est beaucoup plus lumineuse. Donc on est en lecture complètement opposée. Complètement opposée.
C'est comme aussi le problème d'euthanasie, c'est un peu du même genre. Savoir quel est le degré de conscience d'un être. Quand on voit une personne atteinte d'Alzheimer, vu de l'extérieur, hein, franchement, ça ne sert à rien. Est-ce que l'être elle-même est capable d'avoir des expériences et de ramener quelque chose? Et on peut parler de sa guerre.
Et puis, vous voyez, par exemple... Je sais que beaucoup d'êtres, avec le souci de bien faire et autres, et notamment quand il y a ces phénomènes de guerre et autres, ont toujours été traumatisés à l'idée que s'ils avaient été pendant la guerre, ils auraient pu, sous la torture, trahir et tout ça. Mais là où ils savent très bien qu'à un moment donné, le physique ne peut pas résister. Et donc il n'y a pas de faute.
Pour celui qui craque, il y a du mérite. Pour celui qui ne craque pas.
Progression au mérite.
Par rapport à toute les déviances dites sexuelles et les conséquences au niveau équilibrage maladie qui en suit, on pourrait quand même préciser que la source était la période lémurienne.
À l'origine.
À l'origine, lorsque les corps mis à disposition par la mère n'ont pas été assumés, et qu'il y a eu une prolifération, copulage avec les animaux, et ça, c'est là en fait la racine.
C'est ce qu'on appelle la première chute. Quand Mère Nature était au rendez-vous de ce qu'apparaisse l'homme, elle a fourni des véhicules hommes-animaux, mais futurs hommes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'habitants à bord. Il n'y avait pas donc de vie de la quatrième hiérarchie. C'était des véhicules. Et bien sûr, dans ce processus, ça a été pour la mère, pour les dévins, un échec, puisqu'ils n'arrivaient pas à porter la soi-conscience. Les êtres que nous sommes, désignés en tant qu'êtres anges solaires, voyant les êtres sur le plan là-haut, nous sommes des êtres de lumière. Voyant les véhicules proposés, et donc les mondes à faire avancer, un tiers ont refusé. nous ne rentrerons pas dans ces véhicules grossiers. Résultat, les véhicules hommes-animaux, avec le temps qui s'écoulait, ont copulé avec les animaux. De là est descendue la branche singe. L'homme ne descend pas du singe.
C'est l'enfant.
Bon. Et en fait, ces êtres sont encore enfermés dans les coques en question. Mais c'est ce qu'évoque Michael, à savoir que la chute de l'homme, la première chute, elle était normale, c'était de descendre en incarnation. Mais de là a résulté pour le tiers en question la chute, c'est-à-dire l'erreur. À l'époque lémurienne, et la deuxième partie de la période lémurienne, donc troisième race, c'était l'appropriation de véhicules. Et bien évidemment, il y a eu l'attrait, quand l'être est à bord, après ben, il est pris dedans. Donc il y a l'attrait du corps physique. Mais si vous ajoutez à ça l'émergence de l'émotionnel, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ben, on comprend comment qu'est-ce qu'a été, comme on dit, la déviance atlante. Mais il ne faut pas juger, ils vont se rattraper.
Ça ressemble à quoi ces véhicules hommes-animaux ?
C'est difficile. Velu, barbu. C'est un peu un genre de orang-outan. Un genre, hein, pas tout à fait. Voilà. Mais essaye de comprendre à l'inverse. Imaginons qu'à l'époque où il fallait approprier les véhicules physiques, les êtres eurent des véhicules d'aujourd'hui. Mais c'est un gigantesque lupanaire.
C'est peut-être pas vrai la beauté, en fait.
Tu sais que, dit autrement, des êtres sont venus d'ailleurs, hein, pour aider l'humanité, et voyant les filles de la Terre, elles leur plurent.
Ils les épousèrent.
On croyait qu'ils les épousèrent. Et les filles, les fils de Dieu, dire que les femmes des hommes étaient belles et s'unirent à elles. Ils n'ont pas été jusqu'à les épouser.
Mais c'est quoi, homme-animal ? Vous pensez que c'est le centaure de cette mythologie des centaures ?
Non, ça c'est la symbolique, si tu veux, de l'évolution. C'est comme le sphinx. À savoir que l'homme était animal, donc c'est pour ça que tu as le centaure. Et quand tu as le sphinx, en fait, le sphinx est la symbolique du mental humain, donc son corps lunaire, et puis son corps mental supérieur. Le sphinx, c'est ça, c'est la symbolique du mental supérieur et du mental inférieur. On est dans la symbolique sacrée, hein, c'est-à-dire la partie lion, c'est la personnalité, il y a l'âme et il y a les ailes de l'esprit. Hein. Le sphinx, lui, est lié à l'aspect mental, hein. Tu vois, mental inférieur, mental supérieur. Le griffon, lui, il représente les trois aspects de la manifestation. La personnalité, l'âme et l'esprit. Mais tout est divin. C'est la liberté qui fait qu'on tombe dans des travers. Le schéma, c'est d'être à l'équilibre, donc au juste milieu. Ah, il y a peut-être eu effectivement à un moment donné des manifestations genre centaure, hein, au même titre que parfois on voit apparaître chez des animaux des choses absolument ahurissantes. Hein. Vous n'avez pas vu l'autre jour là l'opération qui a été réalisée là, vous savez, au niveau du visage. Vous n'avez pas vu l'être comment il était au départ. Il avait un groin terrible, il avait un groin gigantesque. La première opération qui a été faite en son temps, c'était pour brûler.
L'alphabet hébreu, il vient de la lune.
L'écriture hébraïque. Ah bah oui, mais vous savez, on n'échappe pas à ces mémoires, hein, il faut remonter du plus profond des temps, il faut remonter à une connaissance et un savoir.
Et puis des naissances doubles, et puis finalement il n'y a qu'un qui sort.
Posons d'abord pourquoi les jumeaux. Alors, des jumeaux, c'est deux êtres qui, de vie en vie, se collent et s'isolent, et leur finalité, bah, c'est qu'ils arrivent à être jumeaux, mais la finalité des jumeaux, c'est de se séparer. Alors, quand il y en a un qui tire sa révérence, eh bien en fait, on peut penser que l'autre a accepté en tant qu'être de tenter l'aventure seul. Alors ce qui veut dire qu'en fait, le but positif de jumeaux, c'est de s'écarter l'un de l'autre. Et les parents, là, devraient comprendre qu'ils ont un rôle prédominant. Au lieu de les enfermer dans leur petit confort, ils devraient les amener, voilà. Mais j'ai connu des cas de jumeaux où l'un était parti, et l'autre a le spleen. Toute sa vie, il a le spleen. Il lui manque une présence. Alors, il faut savoir, par exemple, que des Atlantes vont choisir ce cas de figure pour retrouver l'équilibre. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'à être inceste entre eux. C'est une opportunité pour des êtres qui veulent se libérer. Mais comme il n'y a pas d'interdit, les êtres font comme ils veulent. Enfin, plutôt, les présences terrestres font comme ils veulent. Puis vous savez, une vie, c'est une journée de notre être.
On dirait bien.
Non, parce que... Non, mais tu m'as pas laissé finir. Tant que effectivement, on ne tombe pas du genre « je suis éternel », on verra la fois prochaine, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, on a, avec la science et l'insémination à in vitro, comment vous voyez ça par rapport à cette échelle de l'évolution?
La science doit être au service de la vie et non pas manipuler la vie. Je vais répondre d'une façon plus générale. Pour moi, mais c'est un point de vue personnel que je donne, aller au-delà de l'épuration, donc de la maladie, je veux dire par là quand on est amené à forcer la nature d'une façon lourde, je pense qu'on est à l'excès et qu'on ne fait que reporter dans la vie future. Et par conséquent, on ne peut plus réserver sur ce qui est don d'organes et voilà. Parce que c'est un leurre au sens où on ne règle pas le problème. Alors, pour répondre à l'insémination artificielle, c'est un moyen, comme un autre, de dérober au fait qu'on avait l'épreuve karmique vis-à-vis de l'enfant. Et on veut tricher. Ils font comme ils veulent, simplement, il y a de fort à penser que dans la vie suivante, ce sera plus compliqué encore pour eux. Mais là, en fait, on voit que, à être dans l'ignorance et l'aveuglement, eh bien, l'humanité est en errance. Elle ne comprend pas forcément l'expérience de la vie terrestre. Notre être intérieur, comprenons bien, est notre agent karmique. Je veux dire par là que les seigneurs de karma, eux, ne font que guider et présenter les opportunités pour éliminer des nœuds et des erreurs. C'est des agents d'opportunité pour dépasser. Bon. Notre agent karmique, c'est nous-mêmes, c'est Abel, c'est notre âme. Abel, si ça ne lui convient pas, il remettra ça la prochaine fois. Hein. Tant que l'être ne veut pas comprendre, rebelote. Hein. Cain doit donner sa peau à Abel.
Donc je continue ma réflexion. Il y a deux personnes qui décident de l'insémination artificielle et l'offre tient. Quel est le type d'âme qui va prendre?
Quelle est la qualité de l'être qui va saisir ça?
Ouais. Ben, ça ne change rien. C'est une opportunité de s'incarner.
Ah non, dans la réalité, un couple procure d'une façon ou d'une autre un fœtus, véhicule pour un être qui va venir. Le contexte du couple, de la famille, de l'état des situations d'être, font qu'un être d'un certain niveau, d'un niveau incertain, viendra. Je vais le dire autrement. Si un couple est en réalisation d'être, deux êtres du cinquième règne, qui se réveillent jeunes, donc au moment de pouvoir accueillir, qui s'unissent à la fois physiquement, spirituellement et divinement, je ne vous raconte pas la qualité de l'être qui va venir, hein. Ça, je peux vous dire que l'être qui va venir, ça va être un être de lumière.
Eh bien, qu'il soit in vitro ou pas, ça ne change
rien. Écoute, il y a une logique. Si le couple ne peut pas avoir naturellement d'enfants, c'est qu'il y a quelque chose quelque part.
Donc on a violé la loi et ça...
Donc on a violé la loi quelque part.
La loi est la suivante. Qui enfreint la loi, subit la loi. Comprenons bien qu'il y a un contexte quand même très différent entre les êtres qui sont encore dans le quatrième règne et les êtres qui avancent dans le cinquième règne.
Quand on va dans le bon sens, la vie n'est pas faite pour nous embêter, quoi. Elle est faite pour que...
J'aurais même tendance à dire que quand un couple trace bien sa route d'évolution, qu'elle soit supérieure ou autre, la venue des enfants est totalement régulée. Si l'humanité était claire, eh bien, les couples auraient le nombre d'enfants appropriés qu'en tant qu'être, ils ont choisi d'accueillir. Voilà. Et puis ça s'arrêterait là.
Je crois qu'on arrive au bout là.